Alors, le père René-Luc est avec nous par téléphone. Bonsoir.
Bonsoir à tous.
Vous êtes prêtre du diocèse d'Albi, en ministère à Gaillac. Vous parcourez la France 10 jours par mois à la rencontre des jeunes. Vous êtes l'auteur du livre « Dieu en plein cœur » aux presses de la Renaissance. C'est votre témoignage. Un témoignage dans lequel apparaît quelque chose d'assez évident. Rien ne vous prédestinait à devenir prêtre. Vous avez eu une enfance plutôt chaotique. Vous êtes né en 66, dans ce qu'on appellerait aujourd'hui une famille monoparentale. Et finalement, c'est quelque chose qui est assez rare à l'époque.
Je ne sais pas si c'est très rare, mais ce qui était particulier, c'était le fait non seulement d'avoir que notre mère, elle avait 27 ans, 5 enfants élevés, mais surtout d'avoir, si vous voulez, des papas différents, pour dire les choses simplement, donc, et que notre père à nous, à moi et mes deux petites sœurs, nous avait abandonnés, c'est-à-dire qu'on n'avait pas de contact, c'est-à-dire des familles monoparentales, ce n'était pas si rare que ça à l'époque, mais ce qui était plus rare, c'est de, voilà, une femme qui se retrouve donc sans son mari qui n'a pas voulu, enfin son compagnon qui n'a pas voulu garder de contact, elle était déjà divorcée, enfin une histoire un peu compliquée, donc c'est ça qui m'a beaucoup marqué, et je fais partie de ces jeunes qui ont cette particularité de ne pas avoir connu leur père, c'est-à-dire d'avoir toujours marqué toute leur enfance père inconnu, donc c'est ça qui est un peu particulier, c'est pas tellement d'avoir simplement une famille monoparentale, mais c'est de ne pas avoir connu le père, ni photo, ni rien. Et donc voilà, c'est vrai que c'est un démarrage un peu original.
Et alors vous dites dans votre livre d'ailleurs que bah, c'était toujours un petit peu la grande question en début d'année à l'école quand il fallait remplir la fameuse fiche questionnaire sur qui sont les parents. Vous aviez toujours cette question sur l'identité de votre père.
Ouais, tout à fait. C'est-à-dire que effectivement, lorsqu'on devient adulte, on ne demande plus le nom de notre père ni de notre mère. Mais lorsqu'on est enfant, jusqu'en terminale, on vous demande le nom de vos parents. Et nous, les enfants qui n'ont pas été reconnus, c'est-à-dire notre père ne nous avait pas reconnus à la naissance, on portait donc, moi et mes deux petites sœurs, le nom de notre mère, voilà. Et donc du coup, un nom de la mère, c'était facile, mais un nom du père, il fallait soit tracer un trait, soit marquer inconnu. C'est vrai que ça m'a beaucoup marqué dans ma chair, on va dire. Voilà.
Votre mère, elle avait 27 ans, 5 enfants, une vie plutôt modeste, les fins de mois étaient souvent difficiles, et puis de fil en aiguille, vous avez été placé au moins à 2 reprises par la DAS.
Voilà, donc passer d'un foyer d'Adas de l'âge de 4 à 5 ans, puis on en sort, ma mère réussit à rebondir grâce à un héritage, elle reprend une petite affaire, et puis de nouveau un incendie, donc ça nous amène tout ça jusqu'à l'âge de 10 ans. Bon, je fais bref, hein, parce que le sujet c'est surtout les vocations, donc voilà, mais
on va y
ça veut dire qu'à l'âge de 10 ans, nous avons un nouveau virement, puisqu'à ce moment-là, après un peu ces petites galères, mais qui sont pas extraordinaires jusqu'à l'âge de 10 ans, là, ma mère rencontre un homme avec qui elle décide de faire sa vie, et malheureusement, cet homme, on va découvrir petit à petit, on ne découvre pas tout de suite, hein, que c'est un gangster, c'est un homme qui fait partie du milieu. Donc là, c'est une nouvelle étape qui va être très très douloureuse et très particulière.
Et une étape qui va énormément vous marquer, puisque d'un certain côté, vous avez un regard admiratif sur cet homme qui a quand même une certaine stature de par ses activités. Et puis en même temps, c'est un homme qui se révèle très rapidement violent et qui va frapper votre mère.
Exactement, voilà, c'est-à-dire que d'un côté, ben, j'ai le père que j'ai jamais connu, il va avoir ce moment extraordinaire pour moi, il va même me proposer de me reconnaître. Alors vous imaginez, c'était pour moi un moment très très, c'était une fenêtre d'espoir, quoi, et au début il était tellement gentil avec moi, il me prenait vraiment sous sa coupe, vraiment on peut dire. Et puis comme vous venez de le dire, effectivement, il va commencer à changer de comportement au fil des mois. Et commencer à chose incroyable pour nous, les enfants, à lever la main, à frapper notre mère. Bon, il avait un penchant un petit peu pour l'alcool, et donc, situation difficile, donc, violence, hein, ça va aller très loin, ça va jusqu'à ce qu'il lui plante un coup de couteau dans le ventre, jusqu'à ce qu'on fuit, on fugue, il nous a retrouvés, il a été arrêté par la police, on l'a pas laissé tomber, on est allé le voir en prison, en espérant qu'à la sortie de prison, il allait changer de comportement. Et puis, sorti de prison, il a de nouveau été encore plus violent. Et tout ça, ça nous a amené de fil en aiguille à une situation dramatique en novembre 79, puisque ça s'est fini, mais de manière un peu douloureuse, puisqu'il s'est suicidé devant ma mère et moi et mon frère avec son revolver. Il s'est tiré une balle en plein cœur. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai appelé ce petit témoignage très modeste, hein, qui s'appelle « Dieu en plein cœur ». Reprend le titre de ce chapitre qui raconte cet événement un peu important de ma vie, d'une balle en plein cœur, hein, le chapitre donc qui raconte le suicide de mon beau-père.
Alors toute cette partie de votre vie avec cet homme, hein, Martial, vous, du haut de vos 10-11 ans, vous devez déjà avoir un comportement presque d'adulte puisque vous êtes là un petit peu pour assurer la sécurité de votre mère.
Voilà, c'est ça. Donc la date que vous donnez, 10-11 ans, donc c'est au début, ma mère est donc se met avec cet homme quand j'ai 10 ans, et à 11 ans, mes deux grands frères s'en vont, et donc il les fait partir, en fait, ils retournent chez leur propre père, parce qu'on n'avait pas le même père, et donc du coup, effectivement, je deviens un peu le chef de famille, on va dire, d'une certaine manière, en tout cas le confident, le soutien de ma mère dans toutes ces épreuves, jusqu'à l'adolescence, donc 14 ans, où il va y avoir ce suicide. Donc c'est vrai que, mais bon, en cela, j'ai rien d'exceptionnel, hein. Beaucoup d'enfants qui vivent aujourd'hui encore dans des familles éprouvées, sont amenés à recevoir beaucoup de confidences de membres de la famille, et donc ça nous fait vivre des expériences, on va dire, plutôt que prévues, ça c'est sûr. Voilà.
Est-ce que pendant votre enfance, déjà, vous aviez une certaine approche de Dieu? Est-ce que votre mère vous a transmis la foi?
Alors non, parce que ma mère avait une certaine foi, à la fois d'une enfant qui a été élevée dans la foi normalement, on va dire, une bonne française normale, mais suite à son divorce, elle pensait que voilà, qu'elle était en situation de péché, d'échec par rapport à Dieu, et donc voilà, si bien qu'elle nous a jamais transmis la foi, même si on a été baptisé quand on était gamin, un peu par habitude, par tradition familiale, mais on n'a pas été élevé dans la foi, on n'a pas appris à prier avec notre mère, on n'est jamais allé à la messe avec elle. J'avais eu quelques petites bribes, si vous voulez, en allant chez ma marraine, une brave dame qui m'avait recueilli, qui m'a beaucoup aidé. Enfin, je peux pas trop raconter parce que je voudrais quand même qu'on reste, encore une fois, je veux pas qu'on prenne toute l'émission sur mon parcours. Je voudrais plus qu'on parle sur sacerdoce, éventuellement, puisque je crois que c'est le sujet de l'émission. Mais donc, pour faire simple, cette femme avait aidé ma mère à un moment un peu particulier de sa vie. Et donc, elle m'a un peu élevé et donc recueilli quand j'étais enfant. Cette marraine, j'ai un chapitre de mon livre qui s'appelle « Marraine d'un bâtard ». Et donc, il s'agit d'elle, puisque cette femme m'a accueilli à un moment où ma mère était dans une grande détresse. C'est elle qui m'a donné vraiment des légères bribes sur la foi. Donc j'avais eu quelques... Je ne veux pas dire que j'étais complètement... que je n'avais aucune bribe, mais c'était très très léger. C'était simplement quand j'allais chez elle en vacances l'été. Et voilà. Et la foi va devenir une nouvelle aventure pour moi, et très très forte, exactement le 19 mars 1980, peu de temps après le suicide. Le suicide a lieu en novembre 1979. Et en 19 mars 1980, je vais être amené à écouter le témoignage d'un homme qui s'appelle Nicky Cruz, qui est un pasteur protestant. Et c'est en écoutant ce témoignage que je vais être complètement rejoint dans ma propre vie, dans ma propre chair, je dirais même. Bien sûr, j'ai pas vécu la même vie que cet homme, mais cet homme a témoigné de comment, alors qu'il était chef de gang à New York, il a rencontré le Seigneur de manière très très forte. Et ça va complètement me percuter, si vous voulez, en écoutant ce témoignage. Et à la fin de ce témoignage, il va faire quelque chose de très fort, que font nos frères protestants, chez nous les catholiques on est un peu moins habitués, il va proposer à ceux qu'ils veulent de faire une expérience immédiate, faire un petit pas vers Dieu. Et donc on était au Grand Palais des Sports de Montpellier, il y avait plusieurs centaines de personnes, voire milliers même, et je suis descendu devant le podium pour répondre à cet appel. Hein. Et à ce moment-là, ça a été très fort pour moi, c'était quelques mois à peine après le suicide, dans un moment de ma vie où j'étais devenu très violent, y compris contre ma mère, où je commençais à prendre vraiment le chemin de la délinquance, je volais, je fréquentais des gens pas trop fréquentables. J'étais pas un caïd, hein, mais je prenais cette pente vraiment. J'étais en pleine révolte. Et là, ce moment-là va comme faire un arrêt un arrêt de cette descente, si vous voulez, et va avoir un résultat incroyable, c'est que je vais vraiment découvrir, recevoir Jésus dans ma vie et changer complètement de vie. À partir de ce moment-là, je vais fréquenter un groupe de prière, je vais changer complètement de comportement, je vais arrêter d'être violent avec ma mère, et c'est une véritable conversion qui va me tomber dessus comme ça, grâce à ce fameux témoin Nicky Cross.
Et alors, en quoi est-ce que ce témoignage vous a rejoint? C'est son passé de chef de gang qui vous a interpellé?
En fait, je m'excuse auprès des éditeurs de faire un témoignage aussi raccourci, mais lorsque je donne mon témoignage, normalement, je le donne en 45 minutes à peu près, et je suis toujours touché de voir comment, dans mon histoire, dans les auditeurs, les gens qui m'écoutent ou qui ont lu le livre, etc., eh bien, il y a des passerelles, évidemment, c'est un peu normal, hein, nos vies rejoignent l'un ou l'autre dans ce qu'il a vécu lui-même. Eh bien, je peux dire que de même que je reçois ces retours sur ma propre histoire, de même, lorsque j'ai entendu l'histoire de Nicky Cross, ça a une passerelle avec mon histoire. C'est-à-dire, c'est peut-être ce climat de violence, ce climat particulier de un certain nombre de choses, où à la fois c'est pas la même histoire, mais à la fois il y a des passerelles, voyez. Et donc du coup, c'est ça la force d'ailleurs du témoignage, hein. C'est que le témoignage, si vous voulez, si on vous demande, qui est Jésus pour vous? Vous répondez ce que vous en connaissez de tout votre cœur. Mais les gens peuvent dire, mais écoute, ce Jésus auquel tu crois, moi j'y crois pas. Bon, très bien. C'est la liberté des opinions, si je peux m'exprimer ainsi. Mais lorsque vous dites, voilà, lorsque vous racontez votre témoignage de vie, c'est-à-dire ce Jésus dont je te parle, il a fait ça et ça et ça dans ma vie. Ça, si vous voulez, les gens, ils peuvent pas contester le changement. Voilà, c'est ça. C'est Paul VI qui disait... Notre génération a plus besoin de témoins que de maîtres. Évidemment, il faut aussi des maîtres spirituels notamment. Et je crois que Jean-Paul II en a été un extraordinaire, pour ne citer que lui. Mais le témoignage, la force du témoignage, c'est que ce que tu as vécu, personne ne peut te le contester. On peut contester ce que tu penses. On peut même dire, oui, mais alors t'as cru parce que tu t'es raccroché à quelque chose. Bon, peu importe, à la limite, si les gens ne veulent pas croire que c'est vraiment Jésus vivant et ressuscité qui a changé ta vie, bon, ça, on peut pas forcer les gens à croire cette action de Jésus, même si moi, je suis persuadé que c'est vraiment lui qui a agi. Mais, vous voyez, c'est un peu ça, la force du témoignage. Donc, tout ça pour dire que, c'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui, j'accepte, dans mon ministère de prêtre diocésain, évidemment, mon premier ministère, c'est les jeunes, c'est la paroisse, c'est une vie active au service des petites brebis de notre petite paroisse. Hein. On a 20 000 habitants, on est 4 prêtres, mais enfin, pas tous à plein temps. Mais donc, et si j'accepte de quitter les petites brebis de notre paroisse pour aller à la rencontre de celles qui sont un peu partout en France sur ces demandes-là, bien sûr, cet appel a été discerné par mon évêque. Hein. Et si j'accepte, c'est parce que c'est une manière très simple de redonner ce que moi-même j'ai reçu. Hein. Parce que des fois, ça coûte, hein, ça fait de la fatigue, c'est une mission, c'est une joie et à la fois c'est un peu éprouvant. Mais c'est toujours une grande joie dans mon cœur parce que c'est très humblement, je redonne ce que j'ai donné. Ce que j'ai reçu, ce fameux Nicky Cross, il a quitté New York pour venir témoigner dans sa petite ville de Montpellier un 19 mars 80. Eh bien, ce petit don de lui-même a fait que moi j'ai reçu le Seigneur. Donc je me dis, si peut-être une seule personne, parce que je vais dans une ville, fait un petit pas de plus vers Dieu, eh bien, il faut continuer. Donc voilà, c'est un peu ce que je fais.
En 1980, le père René Luc est à Montpellier. Il entend le témoignage d'un pasteur protestant, Nicky Cross, ancien chef de gang portoricain et de New York. Et ce jour-là, sa vie bascule. On peut marquer cette étape-là comme l'un des grands tournants dans la vie du père René Luc, qui est avec nous par téléphone en direct de Gaillac, où il exerce son ministère dans le diocèse d'Albi. Et votre vocation, père René Luc, dans tout ça?
Alors, effectivement, donc la personne qui m'a amené à écouter ce pasteur, c'était une bonne catholique. Donc, souvent on me dit, mais pourquoi vous avez été converti par un protestant? Pourquoi? Eh bien, tout simplement, je crois que c'est le Saint-Esprit qui a guidé les choses. Bon, j'étais aussi baptisé catholique, donc je crois que c'est bien aussi de... Voilà, en tout cas, je suis très très heureux de à la fois d'être ce que je suis et à la fois d'avoir une reconnaissance et une communion avec mes frères protestants, puisque je voilà. Et donc, cette brave dame qui faisait partie du renouveau charismatique m'a un peu enseigné, elle m'a amené à la messe, elle m'a m'a enseigné à prier, elle m'a appris le, et elle m'a même amené à Lourdes, hein, voilà, et donc elle m'a pris un peu en main, si vous voulez. Et petit à petit, donc j'ai commencé à me, évidemment, comme tous les jeunes croyants, à poser la question de la vocation, et notamment un jour dans mon groupe de prière, j'ai demandé la prière des frères. Parce que jeune converti, comme tout jeune converti qui a vécu une vie pas trop dans les cadres habituels, j'avais pas mal de mal avec tout ce qui touchait à la chasteté, etc. Donc j'avais demandé à mon groupe de prière, écoutez, est-ce que vous pouvez bien prier pour moi, pour m'aider un peu dans ce domaine-là, parce que c'était pas facile pour moi, cette nouvelle manière de vivre, on va dire. Et donc ils l'ont fait gentiment. Et là, il y avait un prêtre avec nous, il y avait quelques jeunes, on priait ensemble, voilà, ils priaient tout simplement. Et l'un d'entre les jeunes a demandé une parole au Seigneur, comme ça se fait un peu dans certains groupes de prière avec des jeunes, ou des moins jeunes d'ailleurs. Cette parole, c'était la fin de l'évangile de Jean, parce que Jésus dit par trois fois, Pierre, Pierre, est-ce que tu m'aimes ? Et il lui dit, Pierre dit oui, d'une manière très simple, l'air de dire, Seigneur, tu sais que je suis un pauvre type, mais je t'aime de tout mon cœur, quoi. Tu le sais bien, tu sais bien que je t'aime, quoi. Voilà. Il se rappelait sa trahison, etc. Et ce qui est très touchant, c'est que Jésus, quand il entend cette réponse de Pierre, lui dit par trois fois, ben, écoute Pierre, tu feras paître mes brebis. Bon. Alors quand je reçois ce texte, qu'on me dit ce texte dans la prière, moi, je me dis, ben, Jésus est en train de te dire, René-Luc, que malgré tes faiblesses, tes fragilités, tes pauvretés, Jésus te dit, ben, ce qui compte, c'est que tu continues à m'aimer, et puis rassure-toi avec le temps, effectivement, avec la direction spirituelle, les choses vont s'arranger, voilà.
C'est un peu le premier appel.
Pardon?
C'est un peu le premier appel.
Alors, attendez, parce qu'après, à ce moment-là, donc, je pense pas du tout au sacerdoce, et à la fin, c'est un prêtre, le prêtre qui était présent, qui me dit, René-Luc, qu'est-ce que tu as pensé au sacerdoce? Alors je dis pas spécialement, non, enfin c'est vrai que je me suis posé la question, mais pas plus que ça. Alors je lui demande pourquoi, et il me dit pendant la prière, quand on priait pour toi, pour ce que tu avais demandé, moi j'entendais le mot sacerdoce, et que quand la personne a tiré ce texte, bien ça a été comme une confirmation, puisque en fait ce texte, c'est le fameux texte qui est la plupart du temps lu aux ordinations sacerdotales. Notre ami séminariste qui est là dans le studio apparemment, que je connais pas, mais il a peut-être entendu ce texte lu lorsqu'il assiste aux ordinations de ses amis. C'est vraiment un texte très classique, très courant, parce que c'est l'appel de Pierre, quoi. Vraiment, tu seras le pasteur des brebis. Alors, quand il m'a dit ça, ce prêtre, déjà, je remercie le Seigneur pour son audace de m'avoir un peu tendu la perche. Bien sûr, il m'a respecté, il m'a pas dit ça veut dire qu'il y a un signe de Dieu, non, mais il m'a dit il y a peut-être là un appel, et moi je l'ai reçu. Alors, c'est assez marrant d'ailleurs, parce que avec une grande joie et comme une c'est super, pourquoi pas, et je me suis engagé là-dedans. Alors évidemment, ça a été un appel qui a été ensuite combattu, il a fallu le mûrir. J'ai un chapitre de mon livre qui s'appelle L'épreuve du cœur, qui raconte comment à l'âge de 19 ans, donc 5 ans après, ou peut-être 3-4 ans après, cet appel, ce premier appel, j'ai mon cœur qui battait très fort pour une jeune fille, et que j'ai vraiment essayé que j'ai vraiment pris le temps d'un vrai discernement et de remettre ça dans les mains du Seigneur, et que finalement, voilà, j'ai senti vraiment l'appel de Dieu à confirmer l'appel à la consécration au célibat. Et d'ailleurs, je dis dans mon livre que pour moi, faire l'expérience qu'on est amoureux, je parle pas des petites aventures que j'avais avant, là je parle vraiment de sentir vraiment un amour très fort pour une jeune fille qui était chrétienne, qui était dans le Seigneur, etc., et avec qui au début j'étais qu'un ami, puis je me suis rendu compte dans un deuxième temps que j'étais plus attaché. Mais cette expérience, je la regrette pas du tout, parce que je le dis dans mon livre, je pense que la vocation, c'est comme une icône. C'est-à-dire qu'il faut passer plusieurs couches, et que l'expérience de l'amour, je ne parle pas de la relation sexuelle, je parle vraiment de se sentir aimé, de savoir aimer, de savoir capable d'aimer quelqu'un pleinement, jusqu'à donner sa vie pour elle, pour lui. Je pense que ce n'est pas du tout incompatible, enfin pour lui évidemment, si jamais c'est une religieuse, une personne qui s'en appelle à la consécration religieuse, et pour elle, si voilà, on s'en appelle au sacerdoce ou à la vie religieuse comme homme, ce n'est pas du tout incompatible, parce que je crois qu'au contraire, ça peut même être un élément fondateur, à condition que l'appel soit bien discerné par notre accompagnateur spirituel. Voilà, donc tout ça pour dire que j'ai fait ce chemin, et que ça m'a amené donc à rentrer au séminaire en 1986 exactement, et j'ai été ordonné prêtre en 94. Ce chemin donc est passé par un petit peu des épreuves, mais il a continué sa route, et aujourd'hui je suis très heureux de continuer à l'aimer avec ce que je suis, du mieux que je peux. Voilà.
Il y a eu une autre étape importante hein, dans votre vie qui intervient donc en 1985. Un jour, vous recevez un coup de téléphone.
Oui, alors effectivement, c'est l'autre aspect un peu assez incroyable, c'est que j'avais appris, il faudrait faire un petit flashback, c'est qu'à l'âge de 13 ans, alors que je suis déjà converti, pardon, alors que je ne suis pas encore converti, excusez-moi, et que le suicide n'a pas eu encore lieu, pendant que mon beau-père est en prison, ma mère m'explique vraiment les origines de mon père, donc j'apprends que mon père n'est pas le père de mes sœurs, enfin bon, je m'excuse, mais c'est un peu difficile à expliquer aussi rapidement, donc pour les auditeurs qui me pardonnent de ne pas donner plus de détails, mais il faudrait qu'ils aillent dans le livre. Si
c'est dans le livre, c'est dans le livre. Ouais.
Mais voilà, donc en fait, j'apprends à l'âge de 13 ans que j'ai pas le même père que mes sœurs et que je suis vraiment un enfant né, on va dire, par le hasard d'une aventure, et que ma mère, malgré toutes ces situations très compliquées, a quand même fait le choix de me garder, sachant que mon père géniteur hein, avait des problèmes d'alcool, était un légionnaire de passage et que c'était pas simple du tout, et qu'il a fallu qu'elle soit courageuse, alors qu'elle était en plein divorce du père de mes frères, de me garder quand même. Ça, c'est vraiment déjà voilà, un hymne au courage contre les tentations d'avortement qu'elle aurait pu avoir à ce moment-là. Et en 85, j'ai donc 19 ans. Des années après, je suis converti, voilà, et je suis en terminale, et je reçois un coup de téléphone, et c'est mon père qui se pointe, quoi. Et la chose incroyable, c'est que il m'explique, en fait, il me recherche depuis 5 ans déjà, donc à ce moment-là, je vivais en Bretagne, et mon père me cherchait sur Nîmes, n'arrivant pas à me trouver, il est allé à Lourdes, il a mis un cierge à la grotte de Lourdes, et il m'a retrouvé 5 ans après, des circonstances assez étonnantes. Mais ce qui est encore plus bluffant, c'est qu'en comparant son histoire et la mienne, eh bien, pour moi, Lourdes, c'est, je vous l'ai dit tout à l'heure, juste après ma conversion, cette dame m'avait amené à Lourdes. Et si vous voulez, nous étions le même mois de la même année, 5 ans avant qu'il me retrouve, devant la grotte de Lourdes, peut-être même le même jour. Donc c'est assez troublant, assez touchant même, de voir comment le Seigneur, en fait, écoute nos cris. Moi, je priais pas pour retrouver mon père, je pensais que c'était impossible, parce qu'il, je savais qu'il était allemand, légionnaire de passage, comment voulait que je retrouve? J'avais aucune possibilité, quoi. Et lui, il savait vraiment pas comment me retrouver non plus, parce que ça faisait 20 ans, il avait aucun moyen, et ben finalement, il a réussi. Donc c'est vraiment, c'est un peu d'ailleurs ce qui... Mon livre, si vous voulez, si, je vais devoir conclure parce que malheureusement j'ai ma réunion en paroisse, il faut que je vous quitte. Mais si vous voulez, ce qui un peu le pourquoi j'ai accepté d'écrire ce livre sur la demande d'un ami journaliste et après avoir fait le discernement avec mon évêque, parce que parler de soi quand on est prêtre, vous savez, il y a deux mots qui sonnent faux avec le sacerdoce, hein, c'est vanité et mise en avant. Par contre, ce qui sonne juste, c'est témoignage, et ça a été discerné par nos supérieurs, et notamment par notre évêque. Donc là, j'ai accepté, mais en voyant bien le risque hein, que ça encourt. Et j'ai d'ailleurs envoyé mon livre à tous les Carmels de France pour que notre petite sœur carmélite prie pour que ce ministère que j'exerce, en tout cas le temps que mon évêque me le donne, soit vraiment un ministère de témoin et rien d'autre. Mais si j'ai accepté de l'écrire, c'est un peu pour deux choses. D'abord, c'est pour montrer que rien n'est fichu, même lorsque c'est très mal parti. Hein, c'est un message d'espérance, vraiment. Et le deuxième point, c'est le Seigneur peut appeler à son service même des bras cassés, comme moi. Et c'est pour ça que concrètement, j'ai renoncé à tous les droits d'auteur. Bon, il s'est vendu déjà plus de 15 000 exemplaires de ce livre. Et tous les droits d'auteur sont reversés pour les séminaristes. Hein. Donc, je salue tous les séminaristes présents dans votre studio ou qui écoutent. Parce que c'est vrai que je pense que beaucoup de jeunes sont appelés, hein, le Seigneur continue d'appeler, mais peut-être que parfois on peut avoir une image de celui qui est appelé. Il faudrait qu'il soit vraiment quelqu'un de parfait sous tous égards, en tout cas qui a bien été dans un moule, etc. Or nous savons bien que le Seigneur il appelle largement, et je pense que tout le monde est conscient qu'il peut appeler même des, mais parfois ceux qui se sentent un peu cassés ont parfois peur. Ils se disent mais c'est tellement grand le sacerdoce que je sens l'appel, mais est-ce que je vais réussir à répondre? Alors c'est très très modestement que par mon petit témoignage, j'espère encourager quelques-uns. D'ailleurs concrètement, mon livre de témoignage a 31 chapitres. Les 14 premiers chapitres, c'est avant la conversion, mais les 16 autres chapitres, c'est après la conversion. Parfois, on a des livres où on a 30 chapitres, il y a 28 avant la conversion, et puis 2 chapitres après, vous voyez, c'est la conversion. Moi, j'ai tenu à ce que ce soit vraiment... Et dans ces 7 chapitres, il y a beaucoup de choses sur le sacerdoce, notamment des dialogues que j'ai pu avoir avec mes amis. Je fais beaucoup de sport avec mes amis du rugby, par exemple. Un chapitre qui s'appelle « Troisième mi-temps », ou un autre chapitre qui s'appelle « Sexe ou pas sexe », qui explique pourquoi le célibat, etc., suite à des rencontres, etc. Et j'ai eu une très bonne recension dans une revue de la Procure qui disait Dieu en plein cœur, un fervent plaidoyer pour le sacerdoce. Et pour moi, c'est la plus belle recension que j'ai eue par rapport à tous les autres, très sympathiques, très gentils, qui ont dit un beau livre de témoignage, mais un plaidoyer pour le sacerdoce. Donc je voudrais vraiment dire en conclusion que je suis vraiment habité tout mon cœur par cet appel des vocations sacerdotales. Je le dis dans mon livre, je ne sais pas comment le Seigneur concrètement va rétablir notre situation, qui quand même, faut pas le nier. Je dis dans mon livre à un moment, le problème de vocation sacerdotale en Europe, ça me fait penser au rideau de fer. Vous savez, pendant des années, on a eu ce rideau de fer, et quand il a explosé en 89, mais on n'aurait jamais imaginé que le communisme puisse partir. Moi, je me rappelle très bien, je pensais que je le connaîtrais toute ma vie, que ce serait nos petits-enfants qui verraient peut-être le communisme arrêter. Et ça a disparu en quelques... Voilà. Et je dis, on a un nouveau rideau de fer qui semble être présent, un rideau de fer de la grille des vitrines des vocations. On a l'impression, en tout cas, hein, que le rideau descend, vocation s'est fermée. Et je ne sais pas comment le Seigneur va le faire sauter, mais je suis hyper... très très optimiste et très confiant. Je sais que ça appartient à Dieu, il nous a demandé de prier et on continue de prier, et puis on fait notre petite aide à notre niveau. Vous le faites grâce à cette émission et je vous en félicite vraiment, et je pense qu'il faut continuer de parler sur le thème des vocations. Je l'ai fait modestement par mon livre, le séminariste qui va parler après ou les prêtres qui sont là vont parler ensuite, et chacun contribue à sa manière. Mais ne nous décourageons pas, faisons confiance, c'est lui, le pasteur, c'est lui qui appelle.
Merci, voilà, Père René Luc.
Je vous remercie beaucoup.
Merci beaucoup.
Et je
à bientôt.
Vous souhaite bonne continuation pour l'émission.
Père René Luc, prêtre du diocèse d'Albi, auteur du livre Dieu en plein cœur aux presses de la Renaissance.